RFI.
5h43 tout juste à Abidjan, Julien Coquelroem, à vous.
Merci Edouard Dupénoit, la suite d'RFI Matin tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Le football en France avec la 12e journée de Ligue 1, Lille garde le rythme.
Les Lillois vainqueurs de Rennes 1-0 au terme d'une soirée tout en contraste, marquée d'un côté par les 80 ans du club nordiste, solidement attaché à sa 4e place au classement, pendant que côté rennais, on déplorait la possible grave blessure d'Alidou Seydou, le Ghanéen sorti dès la 18e minute de jeu. Il pourrait souffrir d'une rupture d'un ligament croisé du genou. Dans les autres matchs du soir, Auxerre s'offre une 3e victoire consécutive. La JA a battu Angers 1-0 grâce encore une fois à Ahmed Junior Traoré, buteur à la 93e minute. Sa 6e réalisation, de quoi faire clairement de l'Ivoirien l'un des hommes forts de son club.
Ah, je crois que c'est le but le plus important. C'est le match le plus compliqué depuis que je suis ici. C'était un match difficile, on le savait. Et parce qu'on jouait contre une équipe qui jouait en bloc bas, une équipe qui jouait vraiment ensemble. Même nous, on joue comme ça souvent. À la fin, on a eu les 3 points, on est content. Ouais. Je crois qu'on a fait une bonne lancée. On a mal commencé la saison. Là, on est sur une bonne phase. Il faut rester humble, les pieds par terre, et il faut essayer toujours de travailler à l'entraînement et toujours continuer.
Ahmed Junior Traoré chez nos confrères de DAZN. Prochain match pour Auxerre. Dimanche prochain à Toulouse pour le compte de la 13e journée.
En basket, la première phase d'éliminatoire du prochain Afrobasket masculin s'est achevée à Dakar.
Avec une 3e défaite consécutive pour le Gabon. Battu par le Rwanda 90-63. Les Gabonais n'y arrivent pas. Mais la prochaine fenêtre d'éliminatoire en février se jouera en février, pardon. Et d'ici là, il y a le temps de corriger les choses, estime le sélectionneur Wilfried Cédric Dongo.
On doit faire des aménagements, ça c'est sûr. Déjà pour février, on a vu que le niveau est super différent. On a vu qu'il faut les différents joueurs. Je pense qu'on va devoir travailler plus. On doit devoir améliorer notre adresse, notre défense. C'est bien de venir dans ce genre de compétition où le niveau est élevé, comme ça on voit la différence. Et puis après, on va devoir travailler dur pour que ce soit meilleur. Bilan négatif parce qu'on a perdu tous les 3 matchs. Et pas d'une bonne manière. On a pris. Négatif, ça fait très mal. C'est 3 défaites qui viennent, on va dire, ça peut le moral. Mais bon, on va rester fort. Voilà. On va se réveiller, on va travailler, puis revenir meilleur.
Wilfried Cédric Dongo avec Babacar Fall, les Gabonais derniers de leur groupe C, dominés par les Lions du Sénégal, vainqueurs du Cameroun 87-83. Dans la poule A, la RDC achève cette première phase à la première place après son succès 76-69 sur le Soudan du Sud. Le Mali vire en 3e position en s'imposant sur le fil 66-64 sur le Maroc grâce aux 15 points de Mamadou Diarra. Prochaine phase des éliminatoires donc en février pour les matchs retour.
Et puis un mot de rugby et le prix du meilleur joueur du monde décerné à un Sud-Africain.
Le 3e ligne Peter Steff Dutoit est de nouveau sacré après son titre de 2019. Acteur majeur du succès des Bocs dans le Rugby Championship, Dutoit, 32 ans, succès donné aux Zélandais Hardy Savea. Le Français Antoine Dupont, qui lui a consacré sa saison au rugby à 7, a de son côté décroché le trophée de meilleur joueur, devenant le premier à être couronné en 15 et en 7.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelroem.
Et l'info ce matin, c'est ce coup de tonnerre en Roumanie. Le candidat pro-russe et d'extrême droite, Calin Georgescu, arrive par surprise en première position du premier tour de la présidentielle. 22,6% des voix pour lui, selon des résultats encore provisoires. L'actualité aussi au Liban et une nouvelle série de frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Les écoles resteront fermées aujourd'hui dans la capitale et ses environs. Hier, le Hezbollah a tiré 250 projectiles en direction d'Israël. Au moins 11 blessés dans le pays, ainsi que 13 en Cisjordanie après la chute d'un missile intercepteur. En visite au Liban ce dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat. Et puis l'UNICEF alerte sur la situation des enfants en Haïti. Le nombre d'enfants recrutés par les bandes armées a augmenté de 70% en un an. Ils forment désormais près de la moitié des effectifs de ces gangs dans le pays ravagé par les violences. Pour ou contre une nouvelle constitution, c'est le grand sujet de controverse depuis plusieurs semaines en République démocratique du Congo. Le mois dernier, le président Félix Tshisekedi a lancé le débat en disant que la constitution actuelle n'était pas adaptée aux réalités congolaises. La semaine dernière, l'opposition a répliqué en criant au coup d'état constitutionnel et en accusant le chef de l'État de vouloir briguer un 3e mandat en 2028. La constitution actuelle, Olivier Kamitatou la connaît bien, il présidait l'Assemblée nationale quand elle a été promulguée en 2006. Il est aujourd'hui le porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi et notre invité ce matin au micro de Christophe Boisbouvier.
Olivier Kamitatou, bonjour.
Bonjour.
La constitution de 2006 est obsolète et fait la part belle aux belligérants, dit Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas en effet des articles à revoir dans la loi fondamentale ?
Eh bien, d'abord, ce n'est pas une constitution des belligérants. C'est une constitution qui a été adoptée par un référendum constitutionnel organisé le 18 et 19 décembre 2005, promulgué en février 2006. Donc 85% des Congolais ont dit oui à cette constitution. C'est bien la constitution de tous les Congolais, élaborée par des constitutionnalistes. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais président de l'Assemblée nationale et j'ai animé les débats qui ont abouti à l'adoption du projet de constitution. Non, tout cela, en réalité, la volonté de Félix Tshisekedi, c'est de déverrouiller un article qui le contraint en 2028 à quitter le pouvoir. Il veut garder le pouvoir et il trouve tous les arguments les plus grotesques. En fait, Félix Tshisekedi veut une constitution qui soit un prêt-à-porter pour sa dérive dictatoriale. Avec des mandats illimités, une présidence à vie, c'est ça qu'il cherche réellement.
Mais le président a déclaré la semaine dernière ce que j'ai dit il y a quelques jours à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir. C'est clair ça, non ?
Non, ce n'est pas clair du tout. Rien n'est clair dans la démarche de Félix Tshisekedi. C'est un homme qui manipule l'opinion. Il y a quelques années encore, Félix Tshisekedi était à nos côtés pour défendre la Constitution. Lui-même a déclaré qu'il faudrait marcher sur son corps pour que cette Constitution puisse être changée. Moïse Katumbi a amené Félix Tshisekedi au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères, à la Maison Blanche, pour ensemble se battre pour le maintien de toutes les dispositions de la Constitution. On a conduit des jeunes Congolais à manifester. Certains ont été tués, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ont laissé leur vie sur ce combat mené par toute l'opposition, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, quelques années après, par amnésie, il crache sur la mémoire de ses victimes, de ses martyrs, simplement pour une volonté tout à fait personnelle de conserver le pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. Manifestement, Félix Tshisekedi aura parti difficile face au peuple congolais qui est extrêmement jaloux des dispositions de cette constitution et particulièrement celle ayant trait à l'alternance du pouvoir après le mandat.
Alors la semaine dernière, vous, les principaux dirigeants de l'opposition, vous avez créé un front commun, ce sont les forces politiques et sociales contre la dictature et le changement de constitution. Mais l'an dernier, vous n'avez pas été capable de désigner un candidat commun contre le président sortant. Est-ce que vos divisions ne font pas le jeu du pouvoir ?
On ne peut pas comparer la situation de l'an dernier à celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette coalition n'est pas une coalition pour la conquête du pouvoir. C'est une coalition pour sauver la nation d'un grand péril.
À l'Assemblée nationale, vous êtes ultra minoritaire. Vous n'avez que quelques dizaines de députés face à l'Union sacrée qui en compte plus de 400. Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Eh bien, il faut d'abord réveiller les consciences. Et nous brandissons très bien aujourd'hui ce que tous les Congolais connaissent, l'article 64 de la Constitution qui dispose que nous avons le devoir de nous lever contre toute personne qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer en violation de la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel auquel se prépare Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous devons défendre un bien commun qui est notre Constitution.
Oui, mais l'Union sacrée, c'est quand même un bloc très fort avec de nombreux leader politique, pas seulement Félix Tshisekedi, mais aussi Vital Kamerhe, Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba.
Eh bien, certains de ces leaders ont un silence de cathédrale assourdissant aujourd'hui, parce qu'ils ont été eux-mêmes les artisans de ce texte de 2006. Donc, je peux parler de Vital Kamerhe ou de Bahati et de Jean-Pierre Bemba. Ils ont connu tout ce processus d'élaboration d'un texte qui a abouti effectivement à une apothéose heureuse de 85% des Congolais qui ont dit oui.
Donc, vous espérez que ces leaders politiques qui sont actuellement dans l'Union sacrée fassent défection ?
Non, nous espérons simplement qu'ils se rappellent les valeurs que porte ce texte et ce qu'il a contribué à l'unité de ce pays. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, pour les besoins d'un seul homme qui continue à piller le pays, à mettre en coupe réglée le Katanga, qui mène un train de vie insolent. Nous avons un héritage à protéger, c'est celui d'un pays qui est uni. Nous ne pouvons pas le sacrifier pour les caprices de Félix Tshisekedi.
Olivier Kamitatou, merci.
Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale et porte-parole de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Entretien signé Christophe Boisbouvier. en France. L'actualité, c'est la colère des agriculteurs mobilisés contre l'adoption d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Parmi ces agriculteurs français qui parlent depuis plus d'un an maintenant de leurs difficultés, 16 000 sont multiplicateurs de semences, maillon d'une filière spécifique qui est aujourd'hui fragilisée et veut faire entendre sa voix, car la puissance agricole française en dépend, tout comme celle des pays qui se fournissent dans l'Hexagone. Il faut dire que la France est le premier exportateur mondial de semences, Marie-Pierre Olfand.
La filière semences a subi de plein fouet les caprices de la météo ces derniers mois. Les semences de céréales ont particulièrement souffert à cause de semis trop tardifs et d'une croissance contrariée par un trop plein de pluie. La récolte n'a pas été plus facile sur certaines parcelles totalement sous l'eau. Le bilan sera fait d'ici 2 ou 3 semaines, mais on sait déjà que cette année, marquée par une baisse des surfaces, a affecté les volumes de semences de tournesol, de soja et de sorgho. Celles de maïs s'en sortent mieux. Selon le bilan donné par l'Union française des semenciers, une organisation qui représente une centaine d'entreprises chargées de sélectionner des variétés et de produire des semences qui sont ensuite confiées aux agriculteurs pour être multipliées. En France, ils sont 16 000 à reproduire les semences sur environ 400 000 hectares. Une activité très technique qui doit être soutenue, selon l'UFS, pour mieux résister à la pression climatique et aux normes imposées. L'organisation plaide pour que les semences fassent partie des cultures prioritaires en matière d'accès à l'eau en cas de sécheresse. Elles devraient aussi, selon l'UFS, pouvoir bénéficier de tous les produits phytosanitaires autorisés en Europe, même ceux qui sont interdits en France, en attendant des alternatives. Car si l'année qui va commencer se passe comme celle qui vient de se terminer, maintenir le même niveau de production s'annonce compliqué, prévient la filière. Et si les volumes baissent, les prix augmenteront forcément. Ils pourraient alors peser sur les charges des agriculteurs français, mais pas que. La moitié des semences produites en France est exportée. Hors Union européenne, les deux premiers marchés sont l'Ukraine et la Russie. Mais l'Hexagone fournit aussi le continent africain, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Des clients également soumis aux aléas climatiques et à l'affût de nouvelles variétés plus adaptées.
Marie-Pierre Olfand pour l'actualité des matières premières. Bientôt 7h à Paris. Bientôt 6h en temps universel. Et avant le journal, un œil sur la suite de votre journée à l'écoute des RFI. À 11h10, temps universel, aujourd'hui, notre grand reportage nous emmène au Soudan. 19 mois après le début de la guerre fratricide entre le général Al-Bourhan au pouvoir et les paramilitaires du général Hemeti, une guerre qui a fait plus de 150 000 morts depuis avril 2023 et déraciné plus de 13 millions de Soudanais plongés dans l'une des pires crises humanitaires au monde, entre les bombardements, les massacres, les conflits ethniques, les maladies et la faim qui menace désormais plus de la moitié des habitants du pays. RFI a obtenu un accès tout à fait exceptionnel dans les zones contrôlées par l'armée régulière. Au Soudan, les civils dans l'étau des généraux rivaux. C'est le grand reportage d'aujourd'hui de notre envoyé spécial, Elliot Brachet.
Tout est allé très vite. À 8h35, des explosions ont retenti à l'ouest de l'hôpital Al-Naou. Un tir de mortier est tombé sur un terrain vague où des enfants jouaient au foot. En quelques minutes, les urgences se remplissent. Hamid, un jeune garçon de 13 ans, est allongé sur un brancard, la jambe déchiquetée. À ses côtés se tient Ayman, l'un de ses coéquipiers, blessé lui aussi par un éclat d'obus.
On était en train de jouer au foot. Moi, j'étais gardien de but. J'ai shooté dans le ballon et au même moment, une bombe est tombée. J'ai été blessé au bras. J'ai commencé à courir. Il y avait un homme qui était mort avec les jambes coupées. Hamid, il était tombé par terre aussi. Sa jambe saignait et on voyait l'os qui sortait. Il essayait de lever la tête, mais elle retombait sur le sol. C'est tous les jours comme ça. Il y a des affrontements et des obus qui tombent.
Dans un bain de sang, les médecins, armés de bandelettes, s'efforcent de maintenir la jambe du petit Hamid en un seul morceau. Pour ces urgentistes, ces scènes sont quotidiennes.
Nous nous sommes habitués. Les bombardements à l'aveugle et les exactions commises par la milice des forces de soutien rapide s'enchaînent. Chaque jour, à l'hôpital Al-Nao, nous recevons de graves blessures, des cas critiques. Des enfants, des femmes, des vieillards. Ce matin, la situation est plutôt calme. Normalement, en 2 ou 3 jours, le sol de cette salle est jonché de blessés.
Ici s'entassent les mutilés d'hier et les blessés d'aujourd'hui. Souvent, ils doivent partager le même lit, faute de place. 18 mois de guerre ont mis le système hospitalier à genoux. À l'extérieur du bâtiment, c'est un balai de chaises roulantes et de familles qui échangent des regards inquiets. La mère du jeune Hamid craint qu'on doive amputer son fils. Il n'y a pas de chirurgien aujourd'hui pour l'opérer.
Nous habitons dans un centre d'accueil pour déplacés. Avant, on vivait à Mansoura. Mais les paramilitaires nous ont forcés à fuir. Ils nous pillaient, ils frappaient les gens, ils tuaient. Ils nous ont fait subir toutes les atrocités. Alors quand on a fui, on s'est retrouvés ici dans les quartiers de l'armée. On dort par terre dans une école, nous n'avons plus rien. Et maintenant, on est la cible des bombardements. Tous les jours, il y a des obus qui tombent. Nos enfants ont été blessés alors qu'ils jouaient au foot. La situation est mauvaise. On n'est pas en sécurité. On est fatigué de tout.
Elliot Brachet, notre grand reportage au Soudan à 11h10 et 19h40, temps universel. On commence aussi une série en 3 épisodes dans le pays ce matin. Dans notre reportage Afrique, bientôt 6h, en temps universel, le journal dans une minute sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En RDC, l'opposition prévoit des manifestations dans tout le pays pour dénoncer la possible révision de la Constitution. Que vous inspire ce front uni contre le projet du président Félix Tshisekedi? Nathalie Amar lance le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Jérémy ne parle pas, il n'a jamais parlé. Dans son roman, Laurent Seyer essaye de nous faire ressentir ce qu'il y a dans la tête d'un jeune homme handicapé mental. « J'ai pas les mots » raconte son quotidien, mais aussi les peines, les colères, les victoires du personnage. Car Jérémy voit tout, ressent tout.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h.